Littérature sans frontières.
Catherine Fruchon-Toussaint, Fanny Renard.
Bonjour à toutes et à tous. Jean-Claude Carrière était un conteur magnifique. Suite à son décès cette semaine à l'âge de 89 ans, voici un hommage à cet auteur généreux dans tous les sens du terme, puisqu'il a collaboré à près de 200 films, signé environ 80 livres, sans oublier le théâtre comme auteur ou adaptateur. Des allers-retours entre cinéma et littérature dont il nous parlait ici à RFI, au moment de la publication de son roman « Les fantômes de Goya », co-écrit avec Miloš Forman, qui en fera une version sur grand écran. Un entretien que je vous propose de réécouter dans quelques minutes. Mais avant cela, retour sur ce parcours d'exception, récompensé à juste titre par un Oscar d'honneur en 2014.
Thank you so much to everybody and thank you Phil for what you said and what you gave me. Today it's my daughter's Iris' birthday, which is a strange coincidence. So allow me to say, Iris, bon anniversaire.
Voilà la générosité d'un homme qui, au soir de sa gloire, devant tout le parterre hollywoodien, souhaite d'abord un bon anniversaire à sa fille et finira son discours en associant tous les scénaristes du monde à son Oscar. Il faut dire que Jean-Claude Carrière en savait long sur ce métier de l'ombre auquel il s'était consacré dès les années 60, aux côtés de Louise Buñuel pour commencer, avec lequel il travaille sur de nombreux films, dont Belle de jour, adapté de Kessel et interprété par Catherine Deneuve en 1967, dans le rôle d'une bourgeoise qui choisit de travailler dans une maison close.
Bonjour madame, je suis très heureuse de vous rejoindre.
Bonjour.
Bonjour.
Tiens, Belle de jour, comment vas-tu ?
Bien, merci.
Tu nous avais laissé tomber ?
Pourquoi tu n'es pas revenu plus tôt ?
J'ai pas pu.
Donne-moi ton manteau.
Merci.
Je pense que c'est joli. Oh, dis donc, je vais te demander un petit service. Tu pourrais pas me le prêter pour dimanche ? Je te le rendrai lundi.
Écoute, ça m'ennuie de te refuser, mais dimanche, c'est un petit peu difficile. Tu peux pas...
T'en fais pas, j'ai vu le même en confection.
Carducci ! On se refuse rien.
Qui êtes-vous ?
Ça te porte peine de revenir ?
Non.
Moi, c'est à cause de mon fiancé. Il est coureur cycliste, il a eu un accident, il ne peut plus travailler. Il sait que je viens ici. Je l'aime bien pourtant. Oh, naturellement, je pourrais gagner ma vie ailleurs.
Et tu gagnerais quoi ?
Après le réalisateur espagnol, Jean-Claude Carrière met son talent au service entre autres du français Jacques Deray pour Borsalino, puis de l'allemand Volker Schlondorf pour Le Tambour, Palme d'or à Cannes en 1979.
Es war einmal ein leichtgläubiges Volk. Es glaubte an den Weihnachtsmann.
Autre rencontre européenne majeure, le Polonais Andrzej Wajda, avec qui il écrit Danton en 1983, figure de la Révolution française.
Qu'est-ce que tu veux de moi ?
Ce ton direct me plaît. Tu vas publiquement annoncer que tu te rallies à nous, Georges.
Impossible.
Pourquoi ?
Parce que je n'approuve pas le gouvernement. J'ai le droit.
Mais pas le droit d'en faire état. Surtout pas toi.
Mais tu veux quand même pas que je me rabaisse devant eux, non ?
Tu te crois au-dessus du gouvernement ?
Tout individu exceptionnel est supérieur à la masse. Je méprise les comités autant que toi tu les méprises, seulement moi je le dis. Personne ne doit nous diviser, Maximilien. Personne. Aucun comité, aucun gouvernement, personne ! Méfie-toi, séparés, nous tomberons tous les deux. Et si tu continues avec ta terreur, je ne pourrai pas te suivre. Et d'ailleurs, personne ne te suivra. Et le peuple qui nous a portés déchirera la révolution.
Gérard Depardieu, que Jean-Claude Carrière croise à nouveau dans Le Retour de Martin Guerre, qui lui offre un César du meilleur scénario, et qu'il retrouve dans un troisième film adapté d'un chef-d'œuvre théâtral par Jean-Paul Rapneau, Cyrano de Bergerac.
Vous ! Vous avez un nez ! Un nez ! Très grand !
Très ! Ah ! C'est tout ?
Oui.
Ah non, c'est un peu court, jeune homme. On pouvait dire, oh Dieu, bien des choses en somme, en variant le ton. Par exemple, tenez, agressif. Moi, monsieur, si j'avais un tel nez, il faudrait sur le champ que je me l'amputasse. Amical, mais il doit tremper dans votre tasse. Pour boire, faites-vous fabriquer un anap. Descriptif. C'est un roc. C'est un pic, c'est un cap. Que dis-je, c'est un cap. C'est une péninsule.
Plus récemment, et là encore pour souligner le pluriculturalisme de Jean-Claude Carrière, dont la curiosité n'avait aucune frontière ni limite, son travail avec l'écrivain et cinéaste afghan et français Atik Raimi prit Goncourt pour Singe Sabor, que les deux hommes ont transposé au cinéma. Et puis, n'oublions pas l'une des extraordinaires réussites de Jean-Claude Carrière, son adaptation du texte sacré hindou, le Mahabharata, dans son intégralité, 9 heures d'affilée, montée par le metteur en scène britannique Peter Brook à Avignon en 1985, avant une version plus courte pour le cinéma.
What's your poem about?
It's about you. It's the story of your race.
Three gods rule the universe. Three. We're also one. Brahma, creator. Shiva, the destroyer.
Shiva!
Always present when history ends.
Passionné par les religions, les arts et la grande histoire, Jean-Claude Carrière s'était en 2007 intéressé à Goya, le célèbre peintre espagnol du XVIIIe siècle, à un moment où le fanatisme faisait des ravages. De cette figure et de cette époque était né un roman coécrit avec Miloš Forman, cinéaste d'origine tchèque, et qui allait ensuite adapter cette fiction, Les fantômes de Goya, donc, sur grand écran avec Nathalie Portman et Javier Bardem. Mais avant le tournage, l'écrivain était venu à ce micro pour parler du livre, mais aussi de son bonheur de passer d'un domaine artistique à l'autre. Ainsi a-t-il été aussi parolier, et nous nous quitterons tout à l'heure avec Juliette Gréco qui chante le Contre-Ecclésiaste, un texte de Jean-Claude Carrière. Mais tout de suite, réécoutons cette voix si douce, si sage, celle de Jean-Claude Carrière, invité de l'émission Entre les lignes.
Mon prénom est Jean-Claude, mon second prénom François, mon nom est Carrière et ma nationalité française. J'ai 75 ans. Comme signe particulier, j'ai une petite cicatrice ici du côté gauche du cou, où j'ai été opéré quand j'étais très jeune. Et quand je n'écrivais pas, que faites-vous quand vous n'écrivez pas? Je lis.
Bonjour Jean-Claude Carrière.
Bonjour, ça va?
Ça va, je vous remercie. Et vous-même?
Ça va pas mal.
C'est vrai qu'à la catégorie signe particulier, vous auriez pu ajouter esprit collectif. Il me semble en effet que vous êtes l'un des écrivains les plus partageurs que je connaisse, car que ce soit au théâtre avec Peter Brook, évidemment, au cinéma avec Buñuel, Louis Malle, Patrice Chéreau, pour n'en citer que quelques-uns, ou en littérature aujourd'hui, donc avec Miloš Forman, vous êtes le contraire d'un solitaire, toujours en dialogue avec un autre artiste, une autre culture, un autre monde. C'est un besoin ou c'est un hasard, toutes ces collaborations?
Je suis né comme ça. Je suis né divers et intéressé par beaucoup d'autres choses que ceux qui constituaient ma petite culture initiale, qui était celle d'un petit village du milieu de la France. Très enfant, à peine avais-je 6-7 ans que je voulais m'en aller déjà voir ce qu'il y avait au-delà des montagnes qui m'entouraient. J'ai pas encore fini d'ailleurs. Il faut dire que mon métier de scénariste, d'auteur de théâtre, de romancier m'a beaucoup aidé à connaître d'autres cultures. Alors je suis intéressé par les réponses que d'autres cultures ont données aux questions qui sont les mêmes pour toutes les femmes et tous les hommes, et par ce que le regard que d'autres cultures ont sur la nôtre. C'est-à-dire que je n'ai jamais fait de film sur la Révolution française, sauf un avec Vaïda, metteur en scène polonais à l'époque de Jaruzelski et du communisme. Le point de vue d'un très grand metteur en scène polonais sur la Révolution française de 89 était pour moi beaucoup plus passionnant, à la limite même que le mien, ou que celui de notre Français, qui aurait partagé la même éducation que moi, qui aurait lu le même livre scolaire. Vous voyez, c'est de la même façon quand Buñuel
parler de la bourgeoisie française avec son regard particulièrement acerbe, bizarre, souvent extravagant, c'était un révélateur d'un état d'esprit que nous-mêmes nous avons fini par ne plus voir. C'est cet échange-là, ce regard éloigné, comme disait Claude Lévi-Strauss, qui s'y connaissait, hein, que ce regard éloigné qui est quelquefois beaucoup plus clairvoyant que le regard proche.
Arrivons quand même à ce nouveau livre, Les fantômes de Goya, que vous venez de coécrire aux éditions Plomb avec Miloš Forman, réalisateur de chefs-d'œuvre comme Vol au-dessus d'un nid de coucou ou encore Amadeus, et avec lequel vous aviez déjà travaillé d'ailleurs en 1971 sur un film intitulé Taking Off. Et là, vous vous retrouvez autour de ce roman qui met donc en scène, entre autres, le peintre espagnol Goya au tournant du 18e et 19e siècle. Mais je me demandais, qu'est-ce qui vous a réuni sur ce livre ? Est-ce que c'est l'envie de reformer un duo ou c'est le sujet en lui-même ?
C'est le sujet en lui-même qui nous a réunis à la fois sur un livre et sur un scénario de film. C'est-à-dire
qui va être issu de ce roman ?
Oui, oui, on parlait d'écriture. Alors, c'est ce qui était fascinant pour moi dans ce projet, c'est que nous nous sommes réunis avec Miloš pour raconter une histoire qui aurait, comme ça, dans le fond, le mot fanatisme écrit quelque part. Et Miloš et moi, nous avons eu passé notre enfance sous les nazis. Il a ensuite connu un communisme très dur. Aujourd'hui, nous sommes menacés à la fois d'un retour du fascisme aux États-Unis et d'un islamisme un peu partout. Il y a toujours quelque part derrière des voix qui nous crient « la vérité, c'est moi qui l'ai ». Oui, et c'est de ça que nous sommes partis. Nous avons décalé notre histoire dans le temps, pour la situer à l'époque de Goya, pour justement nous donner certaines libertés. Et quelle autre période que l'époque de la Révolution française et du Premier Empire a provoqué autant de soubresauts, autant de bouleversements dans l'histoire de l'Europe dans les derniers siècles, aucune autre. Donc, voilà, nous sommes allés là, nous avons écrit un scénario ensemble, en même temps que nous écrivions un scénario. Je prenais des notes pour un roman. Dès le début, j'ai dit à Miloš, ça fera un roman. C'est une histoire qui est originale, entre guillemets, que nous n'adaptons pas de ceci ou de cela. Et quand il a commencé à tourner le film, moi, j'ai commencé à écrire le roman.
Donc, parallèlement, chacun
et
de votre côté.
Le film n'est pas encore, la version française n'est pas encore finie, mais le film va sortir dans le courant de l'année, probablement dans 2 ou 3 mois.
Avant de voir le film, donc parlons de ce livre et puis défrichons un peu avec vous l'histoire, parce que c'est quand même un livre à 2 personnages masculins. Donc d'un côté Lorenzo, que l'on découvre au début enfant du peuple, très brillant, qui devient dominicain, puis inquisiteur au pires heures de l'Espagne, avant d'être retourné par la suite par les idées de la Révolution française. Et de l'autre, Francisco Goya, peintre officiel de la cour, et si je peux dire, d'une certaine façon, pendant 30 ans, ces deux hommes vont incarner 2 visions du monde.
Oui, 2 rapports au monde,
voilà.
Sûrement.
Et 2 fois ouais. Différentes. D'un côté l'art et de l'autre le pouvoir.
Le pouvoir, la politique. On peut dire que le personnage de Lorenzo, qui est un inquisiteur au début, qui rate son coup parce qu'il avait travaillé pour un redressement de la sévérité de l'Inquisition. Il a échoué, il quitte. Bon, ça, c'est toute l'histoire du roman. Il revient quelques années plus tard en Espagne. Il a perdu la foi chrétienne qui était sincère. Et il a été tout à fait conquis aux idées révolutionnaires françaises, mais il restait toujours le même personnage, nous dirions aujourd'hui, extrémiste. Donc c'est un homme qui veut utiliser ses talents, vous parliez de son intelligence, il est très convaincant, très orateur, très fort, pour faire du bien, pour changer le monde dans le sens qu'il estime, lui, être le meilleur. Alors l'autre personnage, Goya, n'est que regard. Autant l'un veut changer le monde, autant l'autre veut le regarder et le regardant, le montrer. Car la phrase clé de toute l'œuvre de Goya se trouve sous une de ses gravures et dit « Yo lo vi ».
Je l'ai vu.
Ça, je l'ai vu. Voilà.
Voilà.
Goya a pu se faire accuser, d'ailleurs c'est le cas dans le roman par Lorenzo, d'être un opportuniste, voire même une putain. Il s'est entendu dire ça, il a peint n'importe qui, de tous les côtés du pouvoir. Il a peint les Espagnols, le roi d'Espagne, il a peint le frère de Napoléon quand il est nommé roi d'Espagne, il a peint Wellington quand il vient chasser le roi Joseph, etc. Donc il est là pour gagner de l'argent, bien vivre et peindre. Il n'empêche que dans les dernières années de sa vie, quand la réaction en Espagne, la chute de Napoléon, a amené sur le trône d'Espagne le pire roi que l'Espagne ait jamais, Ferdinand numéro 7, il sent passer, à son âge, il a 75 ans, il a l'âge que j'ai aujourd'hui, il est même plus vieux, il sent passer le froid de l'Inquisition et il quitte l'Espagne pour aller en France, où il mourra à 83 ans, oui, à Bordeaux.
Justement, Jean-Claude Carrière, est-ce que vous voulez bien nous lire cet extrait de ce roman, Les fantômes de Goya, où même si on ne sait pas grand-chose sur lui-même, là, vous lui avez redonné chair.
En 1799, il a publié Los Caprichos, une série de 80 gravures où, comme il l'écrivit lui-même, le sommeil de la raison engendre les monstres. En tête de l'album, il s'est représenté à 53 ans, la lèvre inférieure épaissie, l'œil un peu tombant, les cheveux gris, le menton lourd, porteur d'un gros chapeau noir, avec quelque chose de désabusé et d'indifférent, comme pour dire « voilà comment je suis et voilà le monde que je vois, je n'y peux rien ». Un monde où se rencontrent des créatures gracieuses, de celles qu'on appelle les majas, filles élégantes et souvent faciles, finement chaussées, toujours avec ses courts talons s'évasant vers le bas, les pieds écartés, relevant parfois leurs jupes pour montrer leurs jambes, indice assuré de prostitution, mais aussi des duègnes cassées en quatre, des moines difformes et coquets, des sorcières, des poulets humains déplumés, des spectres empestant l'air, des boucs géants, des tribunaux infâmes, des morts sortant de leur tombe. Raison endormie, place aux caprices.
Je voudrais vous poser une question qui est à la fois générale, qui part de l'expérience de Goya, mais est-ce qu'on peut être artiste et au service du pouvoir ?
Oui, ça s'est vu très souvent, mais on peut très bien. On peut être un artiste, par exemple, en France à la même époque, David, un très grand peintre, se met totalement au service de la Révolution d'abord et de l'Empire ensuite. Il passe lui aussi facilement d'un pouvoir à l'autre. Racine a été très proche de Louis XIV. C'est arrivé pas seulement chez les peintres. Quelquefois, c'était obligatoire.
Mais est-ce qu'on peut pas regretter cette dépendance ?
Mais naturellement, je crois qu'il faut la regretter, absolument.
Pour revenir au fantôme de Goya, on voit donc ces deux hommes, l'un qui veut montrer le monde et l'autre qui veut le changer. Force est de constater que Lorenzo ne peut pas le changer, sans doute parce qu'il est trop extrémiste dans ses positions et dans ses pensées. Que faire alors, si on ne peut ni changer le monde, ni le montrer quand on n'a pas le talent de Goya ?
Est-ce qu'on peut changer le monde ? La réponse est non. C'est-à-dire que l'on soit un artiste, non. C'est-à-dire un auteur de théâtre, un romancier comme moi, ou un scénariste ne peut pas changer le monde. En revanche, on ne peut pas empêcher le monde de changer. C'est-à-dire qu'on ne peut pas figer le monde dans un état donné et dire, voilà, les choses sont parfaites comme elles sont, elles ne changeront plus, j'ai la clé d'or, je connais la formule idéale pour la société dans laquelle nous devons vivre, je vous la donne, nous n'en bougerons plus. Ça non, parce que le monde change malgré nous. Et les grands artistes comme Goya sont ceux qui ont senti qu'un monde craquait et qui l'ont exprimé à leur façon. Le grand peintre révolutionnaire, c'est Goya.
On sent dans votre voix, Jean-Claude Carrière, que vous avez beaucoup plus d'admiration pour un personnage comme Goya que comme un personnage comme Lorenzo.
Oui, Lorenzo est un personnage de fiction, il est inventé. Je ne le déteste pas. Je me mets à sa place assez souvent. J'ai eu une enfance comparable à la sienne. Je sais ce que c'est que de sortir d'une famille modeste pour peu à peu s'élever dans une société. Je vois ce qu'il a voulu faire. Je comprends ses erreurs de direction avant de prendre cette décision au début de renforcer la sévérité de l'Inquisition. Avant de dire la faute de tout, c'est les responsables de tout, c'est nous les inquisiteurs, parce que nous n'avons manquer de sévérité à l'égard de ce qui se passe en Europe. Avant de prendre cette décision, il se retire 8 jours dans un monastère très froid, que je connais bien d'ailleurs, dans la Sierra Guadarrama, au nord de Madrid, en hiver. Et pendant 8 jours, il réfléchit, il médite sans manger avant de prendre cette décision. Donc j'ai une certaine admiration pour ça, même si la décision qu'il prend, évidemment, est fatale. Elle n'aurait jamais été celle que moi j'aurais prise à sa place.
Voilà. Oui, parce qu'il fait souffrir évidemment de nombreuses victimes, dont ce personnage féminin qu'on a à peine, dont on a à peine parlé, Inès, qui quand même, l'année de ses 18 ans, sera donc arrêtée par l'Inquisition, soumise à la question, et évidemment avouera sous la torture tout ce qu'ils voudront.
Oui, ça c'est toute l'histoire du livre,
voilà,
bien sûr.
Voilà, qui pendant 15 ans restera dans ses geôles.
Mais ce n'est pas lui qui l'a fait arrêter.
Non, mais il est quand même responsable.
Il fait ce qu'il peut pour la sauver, ce n'est pas lui qui l'a mis à la question, ce sont les services ordinaires de l'Inquisition, mais il est tout de même responsable de l'état d'esprit qui a conduit à cette arrestation, car il y a une scène dedans, dans le livre et dans le film que nous aimons beaucoup avec Miloche, c'est la scène où il donne des consignes de délation.
Ah oui.
Et des conseils aux dénonciateurs. Et ça, c'est historique. Vous savez qu'aujourd'hui, aux États-Unis, l'appel à la délation sur les chaînes de télévision est fréquent, quotidien.
À la délation contre quoi ?
À la délation contre le terrorisme. Si vous avez des voisins qui sont comme ceci, comme cela, c'est constamment, tous les jours. C'est ce qui étonne beaucoup Miloche, qui est maintenant américain depuis des années. Il dit, je vois revenir aux États-Unis des pratiques qui étaient les nôtres au temps du communisme.
Oui.
Et ça l'inquiète énormément.
Donc c'est un livre, on l'a dit, contre toute forme d'extrémisme, que ce soit donc en politique ou en religion. Est-ce que vous êtes un homme de foi, Jean-Claude Carrière ?
Je ne suis pas un homme de foi religieuse du tout, non, non. Je crois beaucoup en ce que je fais, j'essaie de trouver la meilleure façon, non seulement de vivre, mais d'aider les autres à vivre et d'emprunter à la connaissance de mon temps. À la recherche de mon temps, ce qu'elle peut me donner. Mais la foi paralyse la connaissance. C'est-à-dire, on ne peut pas être un homme de croyance et de recherche en même temps. Mmh. Puisque la foi, enfin toutes les fois, vous donne un catéchisme que vous devez apprendre par cœur. C'est, pour moi, ça, c'est le contraire de la recherche. Évidemment. Moi, je ne suis pas un esprit religieux, je ne suis pas non plus un polémiste anti-religieux, je ne suis pas un bouffeur de curé du tout. j'ai beaucoup... Le comportement religieux... comme celui de Lorenzo, par exemple, à certains moments de cette histoire, m'intéresse beaucoup. Et j'essaie de le pénétrer dans ce qu'il a de plus profond et de plus sincère. J'ai beaucoup travaillé sur le Mahabharata indien, donc sur l'hindouisme, pendant des années. J'ai rencontré de très très près des personnages sacrés, faiseurs de miracles, entre guillemets. Et j'ai beaucoup travaillé avec eux et sur eux, avec beaucoup de sympathie. Je n'aborde jamais le comportement religieux avec un œil préalablement critique ou moqueur, voyez, ou insulteur à aucun moment. Bien entendu, dans toutes les traditions, et c'est le cas en ce moment, hélas, de l'islam, il y a une part de cette tradition qui, à un moment donné, devient fanatique et, entre guillemets, terroriste, qui se met à tuer ceux qui n'adhèrent pas à cette foi. Et on voit que c'est très curieux parce que c'est dans le domaine de l'imaginaire, la foi est du domaine de l'imaginaire, nous avons inventé les dieux, nous les avons imaginés, et pas le contraire. C'est dans le domaine de ce qu'on ne peut pas prouver que nous sommes le plus féroces. C'est beaucoup plus que dans ce qui constitue notre vie quotidienne. C'est extravagant de penser qu'en notre temps, il y a encore des guerres de religion. Mmh. Il y a encore des gens qui affirment, moi j'ai raison et toi tu as tort, c'est mon Dieu qui est le vrai et pas le tien.
Et ça,
alors
ça vous met en colère.
Tous les dieux sont le fruit de la pensée humaine. Et certaines des mythes religieux que nous avons imaginés sont très beaux. J'ai été par exemple très heureux cette semaine, je vous le dis parce que c'est la première fois que je le dis publiquement, d'apprendre en lisant, je ne sais plus quel journal, le Nouvel Obs, je crois, qu'il y a en Grèce un renouveau de la religion païenne antique. Et qu'il y a un culte de Zeus qui se développe, d'ailleurs, sous la direction d'une grande prêtresse, c'est une femme, et ce culte a déjà 100 000 adhérents. Alors je dis bravo, c'est parce que tout de même la religion gréco-romaine est infiniment plus pittoresque et attirante que la nôtre. Et bientôt nous allons voir revenir les nymphes, Aphrodite, c'est tout à fait agréable.
Juste encore une question sur ce livre. Donc vous avez travaillé avec Miloš Forman sur l'élaboration du scénario.
De l'histoire, oui.
Et évidemment, le film est en train de se faire. Et vous avez écrit le roman. Ouais. Quel plaisir différent avez-vous en écrivant un roman plutôt qu'en participant à un scénario?
Oui, c'est ça qui est, si j'ose dire, la bonne question. Parce que je n'avais jamais fait ça de ma vie. C'est-à-dire utiliser à la fois, mais l'une après l'autre, deux formes radicalement différentes d'écriture. Parce que quand on écrit un scénario, c'est une forme éphémère qui va devenir un film, qui n'est pas destiné à durer. Un roman, il sera comme ça, tel que je l'écris. D'autre part, un scénario fait 90 pages, un roman 300. Donc il y a, on peut dire dans un roman, beaucoup plus de choses que dans un film. Toute la partie, par exemple, de la vie de Lorenzo à Paris, tout ça n'est pas dans le film du tout. Tout le début, son enfance, en fait, tout n'y figure pas. On n'a pas le temps, c'est autre chose. Donc c'était passionnant pour moi de passer d'une première écriture à une seconde, au point que pendant le tournage, j'allais sur le tournage pour voir quel visage avaient les acteurs, dans quel décor tournait Miloche, pour pouvoir un peu les décrire dans le roman. Mais en même temps, je lui disais, tu sais, dans cette scène-là, regarde comment je l'ai écrite, j'ai ajouté ceci et cela. Ce qui fait qu'il y avait des phrases qui passaient dans le film. Vous voyez. Il y a eu cette espèce d'aller-retour entre le scénario et le roman. Mais ce sont deux formes complètement différentes. C'est-à-dire qu'il ne faut pas essayer de raconter un scénario quand on écrit un roman. Il faut écrire un roman. Il faut se dire, voilà, je suis maintenant dans la tradition d'Alexandre Dumas, c'est-à-dire un roman historique, avec cette idée que peut-être Dumas n'avait pas, que ce roman est destiné à nous aujourd'hui. C'est-à-dire, nous allons faire un tour dans le passé pour en tirer quelque chose qui aujourd'hui peut nous intéresser, il me semble même nous intéresser beaucoup.
Profondément,
et nous apprendre à la fois des choses sur le passé et des choses sur nous-mêmes. En plus, il y a aussi une différence, c'est que le film sera vu par des groupes de gens, par un public, dans une salle. Un roman est lu un par un ou une par une. Chaque lectrice, chaque lecteur fait le livre sien. C'est-à-dire change, ne voit pas les mêmes visages, ne s'arrête pas à la même page, ne saute pas les mêmes pages, ne relit pas les mêmes pages. Chaque roman est transformé par chaque lecteur. C'est pas le cas pour un film qui est vu par une petite communauté qu'on appelle un public. Enfin, je pourrais vous parler là-dessus pendant des heures parce que c'est évidemment l'histoire de ma vie.
Donc un livre phare dans tous les sens du terme.
Bah, écoutez, un livre en tout cas, j'espère, où on prend un peu de plaisir et où on apprend beaucoup de choses.
Oui, et un vrai roman d'aventure, si vous me permettez aussi.
Eh ben, tant mieux.
Voilà.
Aventure extérieure et intérieure.
Merci beaucoup, Jean-Claude Carrière.
Merci à vous.
Jean-Claude Carrière et Gérard Joannest, le contre-ecclésiaste. Ni le bon, ni le mauvais temps, ni les odeurs de l'océan, ni le vent sur un champ de blé. Rien n'est vanité, ni la peau chaude d'un amant, ni l'éclat du soleil couchant, ni la caresse du vin frais. Rien n'est vanité. Rien n'est vanité. Ni les secrets du firmament, ni les atomes surambulants, ni les cols chics dans les prés. Rien. Ni l'inquiétude d'un enfant, ni le sourire d'un passant, ni le parfum de l'étranger. Rien n'est vanité. Rien n'est vanité.
Tous les cinémas du monde.
Sophie Torlotin.
Cette semaine, on enfile